Le même amour à ses écrits mollets, glorifiés, récités, le bénit, le Dieu vivant, immensément glorieux, Dieu vivant et véritable. Lui qui vit comme Dieu est vivant et véritable avec toi, notre Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu vivant et véritable, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez ? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétablie dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand par toute la terre, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia.
Voici le jour, Alléluia, le jour que fit le Seigneur. Alléluia, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia.
Soit avec vous.
Et avec votre esprit,
notre Seigneur, selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route. Et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux au moment de la fraction du pain. Et ils en parlaient encore. Jésus lui-même fut présent là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous, shalom ma. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, mais pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez-moi, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, Jésus leur montre ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent alors une part de poisson grillé qu'il prit. Il la mangea devant eux. Puis il leur déclare, voici les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la Torah de Moïse, les Anaouim et les Psaumes. Alors Jésus ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Messie souffrirait, qu'il ressusciterait entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous, vous en êtes les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Répande son parfum, sa lumière, son huile vivifiante, son onction de résurrection sur toute la surface de la terre. Qu'elle pénètre en bénédiction toute âme assoiffée de perfection, toute pure, céleste et éternelle. Qu'ils puissent voir s'ouvrir devant leurs yeux les portes de la Jérusalem d'en haut, dès cette terre, purifiée de tout péché, transformée, lavée de toute faute et libérée de tout lien, de toute entrave, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, à toi. Alléluia. La méditation proposée est de Saint Cyrille d'Alexandrie. Saint Cyrille d'Alexandrie. Est mort en 444. C'est grâce à lui que l'Église donna à Marie le nom, la désignation et le dogme aussi de Mère de Dieu. Notre Seigneur Jésus est apparu au Cénacle sous l'aspect qu'il avait auparavant, et non pas selon la gloire qui est due et convient au temple de son corps transfiguré. Et il ne voulait pas que la foi dans la résurrection se porte sur un autre aspect et sur un corps différent de celui qu'il reçut de la Vierge Marie, de la Sainte Vierge, et dans lequel il est mort crucifié selon les Écritures. Par ailleurs, que le Seigneur soit entré toute porte close, quiconque est censé comptera ceci parmi les autres preuves de sa résurrection. Il salue ses disciples par ces mots: la paix soit avec vous. Montrant ainsi qu'il est lui-même la paix. Parce que ceux auprès desquels il se rendit présent bénéficiaires d'un esprit parfaitement apaisé et tranquille. C'est assurément ce que saint Paul souhaitait aux fidèles lorsqu'il disait lui-même: et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est beau ça que ça. Ça, Cyril d'Alexandrie, c'est ça. C'est lui qui a présidé, pas présidé, mais c'est lui qui a eu la plus grande influence apostolique au concile d'Éphèse, le fameux concile d'Éphèse, qui a proclamé que Marie était mère de Dieu, qu'elle n'était pas mère de Jésus qui est Dieu, qu'elle n'était pas la mère de Jésus qui est Dieu, elle était la mère de Dieu. Et la mère de Dieu qui est devenue Jésus. Ce qui n'est pas la même chose que de dire que la mère de Jésus, qui par ailleurs est Dieu. Parce que si on voulait dire que c'est Marie et la mère de Jésus qui est Dieu, ben ça veut dire qu'elle a engendré la partie Jésus du Christ. La nature humaine, quoi. Elle a engendré en Dieu la nature humaine de Jésus. Vous voyez, c'est ça, hein, le dogme. Oui, laissez la porte ouverte, parce que pourquoi elle est fermée? C'est dommage, parce que là, ça ne rentre pas. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un fermait la porte. Dès le départ, les conciles, vous voyez, tout premier concile de Constantinople, concile de Chalcédoine, concile d'Éphèse, deuxième concile de Constantinople, enfin, les quatre grands conciles, quoi, les quatre premiers conciles, dès que les persécutions ont été arrêtées dans l'Empire, les successeurs des apôtres ont pu se réunir pour la première fois et essayer d'écarter les plus grosses attaques qui étaient faites contre les chrétiens. Les plus grosses attaques, ce n'est pas du tout qu'il y a eu des millions de martyrs. Ça, l'Église n'a jamais considéré que le fait qu'on soit attaqué dans la chair pour faire des martyrs soit une attaque. L'attaque, l'Église d'attaquer dès qu'il y a une hérésie. C'est l'hérésie qui attaque. Là où Dieu est attaqué, c'est pas quand on égorge des chrétiens, c'est quand on fait une hérésie. Celui qui fait une hérésie, l'Église considère que c'est comme ça, en tout cas, et puis de toute façon c'est bien évident. C'est quand c'est Dieu qui est attaqué que l'Église est meurtrie. Quand l'Église est blessée par ses martyrs, parce qu'elle perd des martyrs, c'est très attristant. Mais c'est pas ça qui fait l'attaque de l'Église. Dès que l'Église est dégager les grandes attaques de l'Église, les quatre grandes attaques de base de Dieu dans l'Église. Alors, et donc la très sainte Trinité, le mystère de l'incarnation, le concile de Nicée, c'est pour ça que le concile de Nicée-Constantinople, le concile de Constantinople-Chalcédoine, le concile d'Éphèse, la maternité divine de Marie, la très sainte Trinité. Et puis l'hypostase, vous voyez, la fameuse union hypostatique. Ça, c'est la base de tout. La base de tout. Et pourquoi est-ce que c'est drôlement important? Parce que si Marie n'est pas la mère de Dieu, c'est-à-dire si elle n'est pas l'engendrante de l'éternité divine de Dieu, à partir de sa propre chair virginale, entièrement assumé, bien sûr, la partie incarnée de la divinité toute pure de sa chair, toute palpitante de Dieu, si c'est pas ça qui a été assumé en elle, disparu à l'intérieur de l'engendrement éternel de Dieu, si elle n'a pas été la source engendrante avec l'engendrant éternel de Dieu, de Dieu lui-même, et bien à ce moment-là, elle n'est pas mère de Dieu. Alors elle est juste quelqu'un qui est comme nous, qui dit ah, un ange m'est apparu. Bon, magnifique, très bien, j'ai dit oui. Ah, tiens, il me semble effectivement, je suis enceinte maintenant. On va découvrir ce qu'il devient, quoi. Cet enfant, il le découvre, il dit ah, je suis drôlement étonné ce que les gens disent à son sujet. Et voilà, et que Marie finalement est la mère du Messie, un Messie crucifié, puis tout le monde finalement finit par dire que c'est Dieu, quoi. Mais elle le découvre par la foi petit à petit avec tout le monde. Voilà, Saint Cyril d'Alexandrie veillait sur le grave. C'est un contemporain de Saint Patrick. En fait, 17, 18 et 19 mars. C'est les deux colonnes qui soutiennent Saint Joseph le 19, 17 et 18 mars. La maternité divine de Marie, vous voyez. Marie est mère de Dieu. Pour toutes les raisons. Par toutes les manières et sous toutes les formes. Elle est mère de Dieu par le mode de sa maternité. Ce mode est entièrement éternel. C'est un mode d'éternité. La maternité divine de Marie, elle est divine par son objet, par son fruit aussi. Son fruit, c'est quoi? Elle engendre à l'intérieur de Dieu une contemplation éternelle. Elle engendre à l'intérieur de Dieu un bouleversement, si je puis dire, qui est avant la création du monde. Elle engendre à l'intérieur de Dieu quelque chose qui va conditionner le fait que Dieu, finalement, regarde vers un univers à l'intérieur de lui, un univers parfait qu'il va assumer. Elle engendre à l'intérieur de l'éternité du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et une conception divine qui va se concevoir lui-même dans l'incarnation. Elle va engendrer éternellement à l'intérieur de Dieu le respectus du Verbe vis-à-vis de son incarnation. Voilà la définition exacte. Ce regard à créer, et le Verbe de Dieu, c'est bien le Verbe de Dieu qui du coup pénètre à l'intérieur de lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la présence de Marie, son acte de foi en affinité assumée. Il pénètre et réalise ce respectus de son regard divin, personnel, vers l'incarnation. Et de fait, il s'incarne. Donc la maternité divine est divine selon toutes les formes. Par son opération, par son mode, par son objet et par son fruit. Elle est virginale, que Marie soit toujours vierge, toujours mère. Alors, pour nous c'est quelque chose de très touchant pour notre génération. Pourquoi? Parce que nous sommes la génération où l'Église des apôtres avec le pape Paul VI a proclamé en engageant son infaillibilité et pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, pour dire que Marie est mère divine de l'Église. C'est au Concile, ça. Marie est mère de l'Église. Ça veut dire qu'elle est mère de toute grâce. L'Église, c'est tous ceux qui sont déterminés de l'intérieur, vivifiés, brûlés par la grâce sanctifiante. Toutes les formes de grâce viennent de Marie. Toutes les formes de grâce viennent de Marie parce qu'elle engendre dans le Verbe de quoi distribuer sa vie divine, surnaturelle, en toute chair, c'est ça la grâce, eh bien, elle engendre la divinité de la grâce en toute chair. Il n'y a pas une seule grâce qui ne vienne pas des mérites de Marie, qui ne vienne de sa virginité, qui ne vienne de sa sponsalité, qui ne vienne de sa spontanéité, et de sa maternité, de sa royauté, de sa médiation. Elle n'est pas l'unique principe de Dieu, puisque le Père est lui-même son propre, Dieu est à lui-même son propre principe, mais elle a un principe indivisible et conjoint. En fait, c'est pas rien de dire ça. Si Marie n'est pas la mère de Dieu, ça veut dire, vous comprenez bien que le problème de Saint-Cyrie et d'Alexandrie, ce n'est pas son seul problème, il y avait tous les évêques du monde. Mais, et c'était à Éphèse, c'est beau ça, parce que c'est là qu'elle a passé quand même 20 ans de sa vie, qui l'ont amené jusqu'à cette affinité hein, avec la maternité de gloire. Parce qu'au fond, il y a les trois maternités, la maternité vis-à-vis la mère de Dieu, la mère de l'Église, la mère de la gloire. C'est fait à Éphèse, c'est quelque chose d'extraordinaire ça pour nous. Le problème de Saint-Cyril d'Alexandrie, c'est pas un problème, hein. je vous avoue que ça n'a jamais été pour lui un problème. Mais pour ceux qui pensaient que Jésus était vraiment le Messie, le Christ, le Rédempteur du monde, le ressuscité d'entre les morts, mais qui avait du mal hein, avec le fait que Jésus soit lui, le Seigneur, le Dieu vivant, le Créateur de tout, l'incréé par excellence. Parce que quand tu touches les mains de Jésus, quand tu touches les pieds de Jésus, quand tu poses ta tête sur sa poitrine, tu entends son cœur qui bat, son cœur humain qui bat, de savoir que ce n'était pas immédiat hein, de pénétrer à partir de ce cœur qui bat, ce toucher extraordinaire. C'est bien des os, c'est bien de la chair, c'est bien de la vie humaine. Si tu te laissais prendre, si tu étais comme Marie, si tu te laissais prendre, tu serais immédiatement emporté au cœur des centres hypostatiques de sa divinité incréée, bien avant la création du monde. Ça, c'est plus difficile. Croire en Messie, Jésus le Messie. Jésus est crucifié, Jésus est rédempteur du monde, Jésus ressuscité d'entre les morts, Jésus est le juge des vivants et des morts. Jésus, c'est la parole et l'expression de la parole de Dieu. Très bien, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais que Jésus est Dieu en personne. Voilà. Si Marie est mère de Jésus, qui se trouve être à l'égal de Dieu, c'est pas la même chose que de dire qu'elle est mère de Dieu. Si elle est mère de Dieu, alors en Jésus, c'est une union hypostatique. Et si en Jésus c'est une union hypostatique, c'est cette union hypostatique-là qui est déchirée. C'est pas l'humanité de Jésus qui est déchirée. C'est l'union hypostatique qui est déchirée. C'est ce que Marie engendre dans l'éternité. Ça veut dire que le coup de lance pénètre à l'intérieur de l'éternité. Ça voudrait dire que l'union hypostatique n'apparaît que à l'intérieur du temps. Non, l'union hypostatique apparaît dans l'éternité. Et ça, c'est Marie qui, c'est la foi de Marie qui est la source de cette union hypostatique. C'est pour ça que Jésus ne peut pas offrir de manière victimale à l'intérieur de son hypostase et de toutes les hypostases sacrées dans la circumcession de la nature divine, c'est très enflammé de la nature pure et divine elle-même en substance, en sa propre substance, ne peut pas, lorsqu'il est mort, qu'il y a eu le coup de lance, accompagné de la transverbération, il ne pouvait pas offrir, puisque l'union hypostatique était précisément déchirée, il ne pouvait même pas l'offrir dans sa personne de Verbe de Dieu. Or, il fallait quand même que il fallait quand même que le sacrifice soit offert. Il fallait quand même que la rédemption puisse être, cette immolation puisse être apportée en louange, en offrande, et pénétrer le fond des cieux. Et c'est pour ça que Marie est co-rédemptrice, parce que elle est au pied de la croix, et elle offre la dernière goutte de sang, elle offre la blessure du cœur, elle offre le rideau qui se déchire, elle offre l'union hypostatique des cieux et de Jésus, parce qu'elle l'accompagne d'une grâce d'affinité maternelle et royale, qui est la transverbération. Vous voyez ? C'est pour ça que la maternité divine de Marie, qui est la maternité divine de l'Église, et la maternité divine de Marie dans le Verbe de Dieu, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et Saint Cyrille, c'était en 431, le concile d'Éphèse. Il est mort en 444. Il est mort quand Saint Patrick a construit la première cathédrale du monde. C'était contemporain. Moi, ça me fait plaisir de savoir qu'on est contemporain avec Saint Cyrille. Et nous, Saint Paul, c'est le nouveau Saint Paul, Paul VI, je veux dire, c'est le nouveau Saint Cyrille d'Alexandrie. Et nous, on est nouveau Saint-Patrick, on est contemporain. On déborde, vous voyez, c'est pas Paul VI, on est un tout petit peu plus jeune, mais on est contemporain. C'est quand même assez extraordinaire. C'est vrai, c'est extraordinaire. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, vous l'avez fait, je vous l'avais déjà dit, c'est l'évangile du jeudi de la Pâque, et donc ça va être un évangile eucharistique. Hier c'était le jour de Joseph, aujourd'hui c'est le jour de l'Eucharistie. Jésus traverse les portes du Cénacle de la même manière qu'il a traversé les portes de l'Immaculée Conception le jour de sa naissance, sans l'abîmer. Il a traversé les portes de Marie sans abîmer le corps de Marie, comme une lumière traverse une autre lumière. Il a préservé ça c'est extraordinaire, c'est les choses qui se disaient à l'époque de Saint Augustin et du Concile d'Éphèse, c'est que Jésus, quand il ressuscite entre les morts, eh bien, il rappelle ce qui s'est passé lorsqu'il est né de la Vierge Marie, et que la Vierge Marie était dans un état de transfiguration, d'agilité, de subtilité, de luminosité, et donc que sa virginité était absolument parfaite, et surnaturelle, lumineuse, glorieuse et accomplie. Et il a pu traverser les portes du Cénacle de Marie. La transverbération immaculée de Marie et l'union hypostatique de Jésus sont indissociables. Il y a un lien de nécessité entre l'union hypostatique de Jésus, tu dirais, et la transverbération de Marie. Les deux ensemble, ça réalise un aller-retour virginal de Dieu dans la nature humaine, de la nature humaine en Dieu, et du Christ dans la résurrection, dans la naissance, dans la grâce, et la maternité divine de Marie vis-à-vis du Verbe de Dieu, et la maternité divine de Marie dans sa maternité vis-à-vis de la grâce et de l'Église. Il y a un passage de l'un à l'autre qui est indivisible, il y a un lien de nécessité entre les deux. C'est pour ça qu'il traverse les portes du Cénacle sans abîmer les portes du Cénacle. Il est là au milieu d'eux. Et là au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il se trouve là. Et il leur dit, Shalom et Max, ça veut dire soyez bénis. Et vous tous, au milieu, je suis au milieu de vous. Et c'est ça qui s'est passé. C'est toujours pareil, c'est je vous salue Marie, il continue, vous comprenez? C'est je vous salue. Voilà, c'était lundi, n'est-ce pas? Marie. C'était hier, avant-hier. Et puis, ne me retiens pas. C'était hier, Saint-Joseph. Et aujourd'hui, le Seigneur est avec vous, la bénédiction est avec vous, la paix est avec vous, je suis avec vous. C'est la même chose en hébreu. C'est je vous salue Marie qui continue, Toute la résurrection de Jésus est en fonction de la maternité divine de Marie vis-à-vis de l'Église tout entière. Alors c'est pour ça. Désolé, je suis désolé, en pleine messe là. Non, si tu prends un habit, je prends un habit blanc. On n'est pas au salon ici. On célèbre la messe. D'ailleurs, faut pas arriver trois quarts d'heure en retard à une messe, c'est mieux. Arriver un quart d'heure avant. Le pape demande une demi-heure avant. En total, 1h15 de retard. C'est pas beaucoup par rapport aux habitudes, mais. Quand Jésus apparaît comme ça, le fait qu'il apparaisse, c'est saint Augustin qui signifie ça, qui montre ça. Il montre bien que c'est la maternité divine de Marie qui le fait être là, au milieu des disciples, au milieu de l'Église. Il est au milieu de l'Église et il va manifester ce que c'est que l'Eucharistie. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on lui donne le poisson. On lui donne le poisson grillé dans sa main. Et il va manger devant eux le poisson. Hier, il a partagé le pain. Là, c'est l'apparition précédente. L'apparition tout de suite, immédiatement après, c'est celle-ci. Et l'Eucharistie, lorsque toutes les gloires de sa résurrection, de la résurrection du Père et du Fils de l'homme venant sur une nuit s'engloutit dans la Sainte Vierge, en Marie, pour qu'elle engendre la caresse intérieure du mystère de l'Église sacerdotale et royale tout entière jusqu'à la fin du monde. Alors à ce moment-là, elle engendre la présence réelle de l'Eucharistie et engendrant la surabondance sacerdotale de ce pain de vie du Christ, le Christ vient disparaître après sa résurrection dans l'Eucharistie. Et il devient, à ce moment-là, non pas le Christ ressuscité d'entre les morts avec son Père, il devient le poisson, il devient le corps mystique vivant, entier de Jésus, vivant et entier. C'est pour ça qu'il y avait une pierre, vous savez, qui se trouve à Autun, une pierre qui était gravée, qu'on a attribué à saint Cyril, justement, dans le texte qu'on attribue à saint Cyril, et on dit, voilà, quand tu reçois la communion, tu reçois dans ta main le poisson. Quand tu reçois le poisson, n'oublie pas que tu reçois le poisson dans ta main. Alors, les pervers, de là, on fait, avec ce texte, ils ont inversé l'ordre. Ça veut dire que tu dois prendre dans ta main la communion eucharistique et après tu communies pour toi tout seul. Alors que c'est l'inverse. Si tu reçois accipité, si tu reçois la bouchée, alors tu fais partie de l'Église et dans tes mains, c'est le poisson, c'est le corps mystique vivant de Jésus entier. Tu deviens le mort. C'est exactement le contraire. On a pris ce texte gravé dans la pierre d'Autun, qui se trouve à Autun, comme la preuve qu'il fallait communier sur la main. Et on a donc complètement inversé. C'est un véritable méchaume. C'est une inversion surnaturelle, métaphysique, eucharistique qui s'est faite. Et en plus, on a eu l'audace d'attribuer à saint Cyril d'Alexandrie un texte qui disait, mais prenez donc dans la main le pain de la vie lorsque vous communiez. Et on l'attribue à saint Cyril, le même, celui qui a proclamé la maternité divine de Marie. Alors que quand on regarde le doctorat de la Sorbonne, heureusement que la Sorbonne existe,
On s'aperçoit que ce n'est pas un texte de saint Cyrille, c'est un texte de l'évêque Jean de Jérusalem qui avait hurlé contre Saint-Père et s'était séparé de l'Église catholique, qui était devenue hérétique, et il s'était séparé. Et c'est, en fait, c'était un texte, parce que dès que tu te sépares de l'Église catholique, aussitôt, c'est la communion sur la main. Dès que tu te sépares de la maternité divine de Marie, dès que tu te sépares de l'union hypostatique de Cyril de Jésus, dès que tu te sépares de Marie médiatrice, ce que le pape a proclamé, elle est mère de l'Église, aussitôt, c'est le méchaume qui commence, c'est-à-dire l'inversion. Tu vas dans le sens contraire de l'intention divine de Marie et du Père et du Saint-Esprit. Tu fais un chemin vers Satan. Tu vas utiliser l'Eucharistie pour aller vers Lucifer. Voilà ce que c'est quand on arrive en retard. On va de l'autre côté que celui pourquoi. Pour ça, vous voyez, il y a quelque chose qui est très très fort dans cette histoire de l'apparition d'aujourd'hui, Jésus. Du coup, ce Père dans l'Eucharistie, c'était hier avec les pèlerins d'Emmaüs, avec Saint Joseph, avec le Père, avec l'Esprit Saint. En Marie, il va s'engloutir à la passivité substantielle incréée de la responsabilité quasi incarnée, l'Immaculée Conception Eucharistique, d'accord ? Et du coup, elle va engendrer le corps mystique vivant, palpable, touchez-moi, c'est bien des os, c'est bien de la chair, de Jésus vivant et entier. Le poisson, c'est pour ça qu'il prend et il mange le poisson devant eux. Il est seul à le manger. Ça veut dire Jésus désormais à se nourrir de ce que Marie engendre, et elle engendre l'indivisibilité du Verbe de Dieu dans tout le corps mystique de vivant, de Jésus vivant et entier. Et l'Église est sacerdotale, elle est royale, elle est éternelle à cause de ça. Et c'est pourquoi nous disons dans le credo que l'Église est une sainte catholique. Elle est divine. L'Église ne vient pas de la terre, l'Église vient de la maternité divine de Marie. Et la maternité divine de Marie engendre le respect du Verbe de Dieu vis-à-vis de la Jérusalem qui s'ouvre dans son interface, dans l'inspiration incréée et passive et éternelle du Saint-Esprit. Et c'est ça l'origine de l'Église. Voilà ce que Saint Cyrille a fait décréter dans le concile d'Éphèse. C'est beau ça. Et la résurrection, c'est ça tout en. C'est ça, la résurrection. La Pâque du Seigneur, pour nous qui avons la foi apostolique, la foi une, indivise, de l'Église indivise, vous voyez, de l'Église de la Jérusalem, quoi. De la Jérusalem immaculée. L'Église est immaculée, hein. Même supposer par exemple que le pape soit un faux pape, qu'est-ce que ça peut faire? Même s'il s'appelle Borgia, très bien, il s'appelle Borgia, qu'est-ce que ça peut me faire moi? Ça m'est complètement égal, ça n'a rien à voir. Supposons que l'évêque Zozote, et alors? Et mon prêtre louche. Il louche. Et que les fidèles soient des bras cassés. Ils arrivent toujours en retard. Bon, c'est pas grave. C'est des orgueilleux. Parce qu'il n'y a que les orgueilleux qui arrivent en retard. Hein. C'est ce que dit saint Benoît. Seul l'orgueilleux arrive en retard. Ben, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien, c'est pas moi, c'est... Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que l'Église, c'est ça? Est-ce que l'Église, c'est ces espèces de contre-témoignages rassemblés, conglomérés? C'est pas ça, l'Église. C'est pas le conglomérat de toutes les ordures, de toutes les vomitoires de l'humanité. espèce d'alliance avec Lucifer pour tout détruire ce que Dieu a fait à l'intérieur de l'Église. C'est ça, c'est le conglomérat de tout ça, les catholiques. Non, non, non. L'Église est une sainte catholique parce qu'elle vient de Marie, elle vient de Dieu. Et le mystère, vous voyez, c'est pour ça que quand on fête la Pâque, c'est quand même extraordinaire. On ne peut pas fêter la Pâque si on ne voit pas les sept apparitions, c'est-à-dire ce que le Paraclet, l'Esprit-Saint, fait en Marie. Il ne faut pas oublier qu'au pied de la croix, lorsqu'il y a eu la conjonction de l'union hypostatique déchirée de Jésus et de la transpercation maternelle, royale et glorieuse de Marie dans sa foi, ça a assumé une indivisibilité en elle qui a engendré le mystère de la résurrection eucharistique. C'est de résurrection eucharistique. Et c'est le mystère de résurrection, c'est que la résurrection elle-même s'engloutit à nouveau dans Jésus crucifié. Et que Jésus crucifié est infiniment plus grand que Jésus ressuscité. Et je reçois la bouchée et après j'ai l'Église dans les mains. Ictus, c'est ça, voilà. Et donc on voit bien que c'est cette apparition qui sont un « Je vous salue Marie, pleine de grâce », c'est Dieu qui est engendré en toi, c'est Dieu que tu engendres. Ça se réalise encore plus dans la foi catholique, dans le mystère de la Pâque. C'est pour ça que c'est si important finalement ce qu'on avait vu hier sur l'amour séparant. Hein. Et dès qu'on voit que c'est Marie qui est comme la médiatrice de la résurrection, hein, être la médiatrice de la résurrection, je m'excuse, mais est-ce que c'est une chose aussi extraordinaire? Si elle est la source, le principe et la mère de l'éternité du Verbe de Dieu, dans son respectus vis-à-vis de lui-même, sa propre hypostase, dans l'union hypostatique, c'est beaucoup plus grand que d'être mère de la résurrection. Et je dis, bon, enfin, c'est scandaleux que vous dites que Marie est mère de la résurrection, est source de la résurrection. C'est Dieu qui ressuscite Jésus, c'est pas Marie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui ressuscite, parce que Marie est indissolublement dans l'indivisibilité hypostatique de Dieu, dans l'opération précisément de la résurrection. Donc c'est bien Dieu, mais c'est à travers Marie. Dieu ne ressuscite pas Jésus en aucune manière, jamais, et à aucun point de vue en dehors d'elle, en dehors de sa foi, en dehors de son activité méritoire, vous voyez, elle a engendré aussi la mort de Jésus. C'est elle qui a engendré la rédemption. C'est elle qui a engendré dans le Verbe, qui a regardé dans son respect tous éternel de son incarnation, le Verbe engendre par la foi de Marie cette déchirure du rideau, déchirure de l'union hypostatique, cette union hypostatique qui va être une union hypostatique déchirée et béante. C'est bien par elle qu'elle est médiatrice. Normalement, l'union hypostatique de Jésus ne peut pas. Hein. Jésus ne peut pas mourir. C'est strictement impossible. Puisque l'union qui est entre la nature humaine de Jésus et la nature divine de Jésus, c'est une union hypostatique. C'est-à-dire, et même, il n'y a que la personne de Dieu. La personne humaine a disparu. Il y a bien une nature humaine. Il y a des os, il y a une chair, il y a une intelligence, il y a une affectivité humaine, il y a tout ce que vous voulez, une âme humaine, un esprit humain, des puissances humaines, des puissances spirituelles, une mémoire de Dieu humaine, et tout ça, il y a tout ce qui est humain en Dieu, tout. Mais la personne, non, il n'y a pas de personne humaine. Parce que l'unité dans le Christ est tellement forte qu'elle fait disparaître la personne du côté de l'humanité. Il n'y a qu'une seule personne dans le Christ, c'est Dieu. Et saint Augustin fait remarquer que même dans la très sainte Trinité, l'unité entre les trois personnes n'est pas si forte qu'elle fait disparaître la personne. Les trois restent des personnes et elles ne disparaissent pas. Tandis que dans l'union hypostatique, ça fait disparaître la personne. Donc l'unité de l'union hypostatique est plus forte que l'unité des trois personnes divines de la très sainte Trinité dans l'unité. Merci saint Augustin de nous avoir expliqué. Saint Thomas d'Aquin rappelle ça. Donc, la mort de Jésus ne peut pas. C'est impossible. Mais il va falloir, du coup, qu'il y ait que cette immense, béante, éternelle ouverture qu'est la croix, ce que la croix de Jésus simplement essaye de faire comprendre. Cette union hypostatique est déchirée à l'intérieur du Verbe de Dieu. Et cette déchirure est nécessaire pour que la résurrection puisse être comme absorbée dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie absorbée toutes les formes de la mort, toutes les formes du temps, toutes les formes de la matière, toutes les formes de la création. Et puis être englouti à l'intérieur de Dieu et non pas à l'intérieur d'un ciel. Un espèce de ciel où on serait très heureux, où on peut arriver à l'heure qu'on veut. Faire ses priorités comme on veut, faire sa propre volonté comme on veut, ses caprices comme on veut, ne recevoir jamais aucun reproche. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est les chambres de l'égoïsme universel. C'est le rassemblement de toutes les hypothèses transcendantes substantiellement. Voilà, vous les rassemblez, mais c'est pas ça le ciel. Le ciel, c'est Dieu. Ça, c'est Ictus, le poisson. Jésus Christus, Theos, Uios, Soter, Ictus. Le poisson, Jésus Christ, c'est le Dieu vivant qui a sauvé le monde entier. Le monde entier est là. Il y a un seul Père de Dieu qui tient toutes les mondes vivantes, Jésus vivant, en une indivisible hypostase, à travers laquelle peut surgir l'émanation éternellement dans l'agré du Saint-Esprit. Donc c'est pour plus que le mystère de la résurrection. Il n'a bien fallu que Marie engendre. Marie est la mère de l'union hypostatique déchirée de Jésus, puisque cette union hypostatique déchirée de Jésus est indivisible par rapport à cette transverbération. Quoi créé dans l'Esprit Saint. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle dit « Je suis d'Immaculée Conception ». Là, ce que je viens de vous dire, vous voyez, c'est un enseignement du Père Maximilien Marie Kolb. Et bien, c'est aujourd'hui, vous voyez, que l'Évangile exprime ça. Hein, l'Évangile de la Résurrection. On voit bien que l'Église, elle a toujours compris, vous voyez, c'est pas du tout une explication nouvelle que je vous donne là. Saint Augustin, quand c'est Éphèse, voilà, cette apparition, Jésus traverse les portes du Cénacle sans l'abîmer, tout de suite, tous les apôtres, Jésus a expliqué ça aux apôtres, ça j'en suis sûr, hein. C'est pas marqué dans l'Évangile, mais c'est évident, parce que sinon, comment est-ce que c'était une chose si évidente pour, dès que les apôtres ont pu, les successeurs des apôtres ont pu l'exprimer, pour mettre par écrit, pour dire, écoutez, arrêtez de dire les choses trop humainement. Hein? De manière trop protestante. Tout de suite, les portes du Cénacle, ils se trouvent là au milieu d'eux. Ça, c'est Marie. Ça montre tout de suite qu'on est à l'intérieur de la foi de Marie. Et comme il vient de dire, il vient de rompre le pain, disparaître, au moment où les disciples disent, et au moment où il a rompu le pain, ben, il a disparu, et aussitôt, tous, il est là. C'est génial. Faut avouer que c'est assez génial. Hein. C'est celui-là. Mais touchez-moi, mais pourquoi est-ce que vous êtes bouleversé? Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est moi. Il avait 30 ans quand même, il était jeune, hein. c'était pas un sage avec sa barbe, et qui avait un discours impassible, disant, bon, écoutez, voilà, c'est moi. Soyez pas bouleversés. Non, 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 il était jeune, il aimait bien rire. Laissez-moi regarder, venez voir, venez toucher. Vous allez voir. J'ai des os, hein. C'est moi, soyez pas bouleversés. Soyez pas bouleversés. C'est sûr qu'il a pris le bisou, il a bousculé contre un coin, là. Mais c'est moi, écoute, arrête. Et puis bon, bah, donnez-moi un poisson. Parce que les choses avec Marie, à l'intérieur de Marie, se font de manière très, 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 dans une complicité parfaite. Une spontanéité immédiate. Célébrer cette messe gentiment. Et puis on va demander justement qu'il y ait dans ce triduum, puisque nous faisons ce triduum de messe tous les jours, comme ça, c'est beau, hein, de faire une semaine pascale, une semaine sainte, je veux dire une semaine pascale, en triduum comme ça. Ces 19 messes sont magnifiques, vous voyez. C'est beau d'être fidèle à ça, parce qu'il faut quand même qu'à l'intérieur de l'église, c'est la première fois qu'on célèbre la Pâque depuis la canonisation du pape Paul VI. Hein. C'est lui qui a proclamé la maternité divine de Marie sur toute chose, hein, dans l'église, dans le temps. Et c'est la première fois. Hein. Première fois dans l'histoire du monde, on célèbre la Pâque avec ça. Ce n'est pas. Je signale aussi une autre parenthèse, puisque une autre petite parenthèse, c'est que souvent on entend dire, vous savez, les gens sont. Bon, je suis d'accord, on n'est pas très dégourdis. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Jésus, hein? La première chose qu'il leur dit, ça, je trouve ça drôle, il se trouve au milieu d'eux. Et puis, il leur dit, mais enfin, esprit sans intelligence. Ah, moi, j'aime bien, parce que moi aussi, ça m'énerve. Mais vous avez un esprit, vous avez un intellect agent, vous avez un os. Et vous ne comprenez pas. Mais pourquoi vous restez dans votre... des esprits sans intelligence comme ça, mais c'est épouvantable. Hein. C'est quand même lui, il a créé une intelligence aux êtres humains. Tout le monde a cette intelligence. Pourquoi vous restez des milliards de kilomètres en dessous? Pourquoi vous restez dans une bêtise, mais à mâcher du foin? Pourquoi? C'est énervant, hein. Esprit sans intelligence. Il ressuscite, il se trouve là au milieu, il pourrait leur dire autre chose quand même. Esprit sans intelligence. Pourquoi vous ne comprenez pas que tout est lié comme ça à cet amour extraordinaire du Père, de l'époux, de la virginité toute palpitante incarnée dans l'Immaculée Conception, que tout vient de là, c'est tout. Vous en plus, c'est facile à voir, c'est pas du tout un truc extraordinaire, complètement impossible. C'est l'intelligence toute simple. Pourquoi avez-vous effondré votre intelligence exprès, volontairement? Vous voulez y rester au niveau de l'intelligence animale. Pourquoi? Mais vous êtes des êtres humains quand même. Soyez intelligents, soyez contemplatifs. Alors voilà. Alors du coup, toujours en dessous. Toujours par le terrestre. Toujours par le Ah, on n'a pas encore défini le dogme de Marie médiatrice. Le pape n'a pas défini le dogme de Marie médiatrice de toute grâce. Mais n'importe quoi. Le Concile Vatican II indique Marie, mère de l'Église. Ça, c'est le dogme de Marie, médiatrice de toute grâce. Le dogme de Marie, médiatrice de toute grâce, a été proclamé universellement de manière catholique, apostolique et universelle. À la fin du Concile Vatican II, parce que dire que Marie est médiatrice de toutes les grâces et Marie est mère de dame, toutes les grâces sans exception, c'est exactement la même chose. Donc le dogme de Marie médiatrice de toutes grâces est proclamé infailliblement. Et pour la première fois, on canonise celui par qui ça a été fait. Esprit sans intelligence. Mais voyez, faut connaître un petit peu quand même Saint-Cyril. Connaître un petit peu, quoi, ça. Un petit peu. Et du coup, on navigue en disant, oui, vous verrez quand il y aura. Un dogme imbécile, ça fait déjà. C'est 1960, ça fait quand même un bail, hein. 50 ans de retard déjà. Alors tu vas faire des sites entiers, des bouquins pour dire quand il y aura le dogme de Marie Médiatrice de toutes les grâces. Tout ça, poubelle, au feu. Ça sert à rien. C'est des esprits sans intelligence. C'est une petite parenthèse, vous voyez, il faut faire attention. La doctrine infaillible de l'Église dépasse tout. Marie dépasse tout. La foi de Marie dépasse tout. La foi Marie eucharistique et pascale de Marie dépasse tout. Et c'est ça que le Saint-Esprit demande, vous voyez, pendant cette semaine. Hein. C'est qu'on puisse rentrer, s'engloutir, découvrir, contempler, et s'extasier, et disparaître, et voir. Mais bien sûr, la foi, enfin, la maternité divine de Marie, dans ce qu'elle engendre, quoi, à l'intérieur. Elle reste sur la terre parce que Dieu est toujours attiré en elle pour engendrer à nouveau, toujours plus grand, jusqu'au bout. Jésus résident vraiment, et bien voilà. C'est pour ça que les 24 vieillards, les 4 vivants dans l'Apocalypse sont prosternés devant l'agneau. Et c'est ça qui enveloppe l'agneau, c'est la Jérusalem, agréée et créée de Dieu. Tout Apocalypse est là. Lui, Saint-Joseph, lui, il voit très bien tout ça. Avant que ça n'arrive, il le voyait. Il en vivait. Avant que ça n'arrive, il le voyait, il en vivait. Et il n'avait pas fait... Non, c'était une intelligence normale. Simplement, il n'était pas orgueilleux, c'est tout. C'est vrai, vous verrez toujours dans la vie, vous verrez, par rapport à la vérité, je veux dire, la vérité surnaturelle, la vérité divine, la vérité, je ne parle pas des autres vérités, je parle par rapport à la vérité. La vérité, quelque part, ça vous rend humble. Parce que toutes les idées que vous en aviez, vous apercevez progressivement qu'elles sont toutes du démon. Toutes, sans exception. Alors, ça ne t'humilie pas, mais ça te rend humble. La vérité dogmatique, la vérité réelle, la vérité en personne, ça finit par diluer totalement ton orgueil. Et du coup, ton intelligence, elle libre. Du point de vue de la vérité, il faut être irréprochable, n'admettre aucune ombre, et dire, c'est tout ce que l'Église infaillible du Seigneur nous indique, dans laquelle je rentre, et je ne discute pas là-dessus. Sinon, je ne peux pas devenir contemplatif, je deviens d'esprit sans intelligence, et je ne peux pas. Bon, je reçois aujourd'hui ce reproche de Jésus ressuscité. Non, mais pourquoi ? Parce que tu as encore de l'orgueil. Donc, du coup, il y a encore un espace entre toi et moi. Voilà. Tandis qu'avec Marie, il y a une complicité, il y a une proximité, il y a une unité, il y a une indivisibilité, il y a une enfance, il y a une spontanéité éternelle et incarnée. Quoi. C'est très intelligent, vous savez, l'amour, finalement. J'espère que tout le monde est bien réveillé maintenant.